Les séminaires du Collège de France.
On va passer des humains à d'autres types d'animaux. En cette fin d'après-midi, on va parler de papillons. Mais il y aura quand même beaucoup de liens avec ce que Louis vous a raconté aujourd'hui et dans son cours précédent. Puisque moi, je vais précisément m'intéresser à comment on peut montrer expérimentalement quels sont les moteurs de la sélection ou les mécanismes de sélection qui vont jouer sur l'évolution des motifs de coloration des ailes chez les papillons. Alors, je vais commencer par une petite introduction. L'avantage de travailler sur les papillons, c'est qu'on va, s'intéresser à des animaux qui ont une beauté relativement fascinante. Et donc chez les lépidoptères, qui sont donc ces insectes dont sur les ailes desquelles on trouve des écailles colorées, on trouve une très grande diversité de couleurs et une très grande diversité de motifs. Alors cette diversification des motifs, elle corrèle avec la diversification des espèces de lépidoptères. Donc ici, je vous ai mis ce qu'on appelle un arbre phylogénétique de tous les lépidoptères. Donc les lépidoptères, ça va regrouper ce qu'on appelle en français les papillons de jour et les papillons de nuit. Alors en fait, c'est une appellation qui est un peu fausse parce qu'il y a des papillons de nuit qui sont actifs le jour et l'inverse. Mais en français, on a un peu ces deux grandes catégories, papillons de jour et papillons de nuit. Donc ici, vous avez un arbre qui représente les relations d'apparentement entre les différentes espèces de lépidoptères. Vous voyez que c'est une histoire qui est relativement ancienne. Hein. L'échelle ici, elle commence à partir de environ 300 millions d'années. Donc là, on est sur une échelle de temps beaucoup plus longue que l'échelle de l'évolution humaine, par exemple. Et puis, ce qu'on peut voir aussi sur cet arbre phylogénétique, c'est que donc, les papillons de jour, qui sont donc ici, représentent une fraction des espèces de lépidoptères qui est relativement petite. La plupart des lépidoptères sont en fait des papillons de nuit. Alors si on s'intéresse à ces papillons de jour, on peut zoomer. Et donc là, c'est le même type d'arbre, mais sauf qu'il a été mis en format circulaire, mais c'est exactement le même principe. Vous avez différentes longueurs de branches qui représentent les échelles de temps au cours desquelles ces papillons se sont diversifiés. Et ce qui nous intéresse, donc ici, il y a un certain nombre de motifs de couleurs des ailes qui ont été présentés. Et on voit une très très grande diversité de motifs qui sont issus de cette histoire qui est une histoire très ancienne. Alors, je sais que Louise vous a parlé de l'origine des variations de phénotypes. Donc les phénotypes, ça va être l'ensemble des traits, l'ensemble des caractéristiques qu'on peut mesurer sur un individu. Et il y a notamment une première origine importante de variation qui va être la mutation génétique. Alors, comme chez l'humain, chez les papillons, il peut y avoir des mutations génétiques qui apparaissent au sein des populations. Et certaines de ces mutations peuvent avoir des effets sur les motifs de coloration. Alors, je vous mets un exemple chez un papillon qui s'appelle Bicyclus aninana, qui est une espèce qui est extrêmement étudiée d'un point de vue de la biologie du développement et de la biologie évolutive chez les lépidoptères. Et dans cette espèce, ce qu'on retrouve, c'est ce type de motif, donc ce qu'on appelle des ocelles, où on a un centre blanc avec quelque chose de très contrasté autour. Et ce que vous voyez, c'est qu'au sein de ces mêmes populations, on peut les maintenir au laboratoire, on peut observer des variations dans le nombre, la forme, la composition de ces ocelles. C'est un modèle qui a été étudié assez longuement et pour lesquels on connaît un certain nombre de gènes qui vont influencer ces variations d'ocelles. Alors, j'avais prévu de vous montrer un tout petit peu comment on peut essayer de valider quel gène peut être impliqué dans quel type de variation de phénotype et notamment de vous présenter une méthode dont on entend pas mal parler en ce moment qui est la technique du CRISPR-Cas9. Donc en fait, quand on soupçonne qu'on a un gène qui serait impliqué dans des variations de coloration, par exemple quand on fait des études de génétique d'association, comme a présenté Louis juste avant, on peut avoir un certain nombre de gènes qu'on va appeler des gènes candidats, qui sont dans des régions génétiques qui semblent être associées à la variation de phénotype qu'on observe. Eh bien, on peut tester. Alors, chez les papillons, la manière dont on va tester, c'est qu'on va prendre des œufs de papillons et puis on va injecter ici ce système de CRISPR-Cas9 qui va... Alors, je vous passe les détails techniques parce que c'est pas forcément ce qui est important. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va aller spécifiquement découper un petit morceau d'ADN et éventuellement le remplacer par une autre séquence. Donc, on peut typiquement juste découper un bout et puis l'enlever. Tout ce qui va insérer, on peut insérer par exemple, ça va faire un trou par exemple dans la séquence du gène. Et ensuite, eh ben, on va regarder dans les œufs, on va garder les œufs dans lesquels on a injecté ces sondes. Et puis on va regarder quel est le phénotype obtenu. Donc ici, vous avez un exemple chez ce papillon Junonia senonia, dans lequel on a fait une expérience d'injection de cette sonde CRISPR qui a pour conséquence de casser un gène qui s'appelle WNTA ou WNTA. Donc ici vous avez un papillon issu d'un œuf dans lequel on n'a pas injecté la sonde et puis ainsi un papillon dans lequel la sonde a été injectée dans l'œuf. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on a une variation dans, par exemple, ici il y a une nocelle supplémentaire, on a un changement ici dans la mélanisation de cette zone-là. Donc ce qu'on voit, c'est que différents gènes vont avoir des effets sur la coloration, donc la couleur elle-même, par exemple le niveau de mélanine, hein, tout comme chez les humains, il y a une partie des pigments qui sont issus de la mélanine. Et puis aussi sur le motif, c'est-à-dire la répartition de ces pigments dans les différentes écailles au sein de l'aile du papillon. Alors ces mutations, donc ça aussi Louise a dû vous l'expliquer, elles peuvent arriver de manière relativement aléatoire dans les populations. Donc ici je vous cite une étude qui a été faite par une étudiante de notre équipe, qui s'est intéressée à la variation justement dans la position et puis la variabilité des ocelles. Et puis on avait fait une autre étude donc, sur ces papillons du genre morpho. Donc ici vous avez deux espèces différentes de morpho. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé donc, au sein de ce groupe de papillons. Donc ici chaque branche est une espèce différente du genre morpho. Et ensuite on a regardé combien il y avait d'ocelles sur l'aile antérieure, sur l'aile postérieure, et puis quelles étaient leurs positions sur l'aile. Alors, ce qu'on observe dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de variations en fait, entre espèces, à la fois dans le nombre et dans la position de ces ocelles. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ces variations, elles vont avoir un effet, elles arrivent simplement au hasard et par hasard, il y a certaines mutations qui arrivent dans certaines lignées, dans certaines espèces et pas dans d'autres, ou est-ce qu'il y a des pressions de sélection qui vont jouer sur la présence-absence de certaines ocelles à certaines positions de l'aile. Et ça va être une question récurrente dans les études qu'on va pouvoir mener, parce que quand on va comparer différentes espèces, elles vont avoir divergé depuis un certain nombre de milliers, voire de millions d'années. D'accord ? C'est ce que représente cet arbre-là. C'est les relations d'apparentement entre ces trois espèces. Et au sein de chacune de ces lignées, il peut y avoir apparition de mutations au hasard. L'apparition de ces mutations peut entraîner des variations phénotypiques, hein, des évolutions des traits. Donc, même en absence de sélection, au cours du temps, on va avoir une divergence génétique de nos espèces et aussi une divergence phénotypique en conséquence de cette variation génétique. Et donc souvent, on va considérer ce qu'on appelle un modèle brownien, mais encore une fois, ce n'est pas la chose importante que vous reteniez le terme, mais c'est l'idée qu'un phénotype, il va évoluer au cours du temps et il peut évoluer de manière différente dans les différentes espèces. Et le degré de divergence des traits qu'on va observer entre différentes espèces, eh bien, elle va être fortement dépendante de l'âge d'apparition ou de séparation entre nos espèces. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que c'est pas parce qu'on voit des différences entre espèces que ces différences sont forcément adaptatives. Et un des un des buts de la plupart des études en écologie évolutive, ça va être de comprendre quelle est la part de l'évolution dite neutre et puis quelle est la part de l'évolution qui est due à de la sélection naturelle ou de la sélection sexuelle. Donc ça, c'était juste une espèce de grande mise en garde avant de commencer à parler d'adaptation, qu'il faut se méfier de la tendance qu'ont beaucoup de gens, et même en tant que chercheur en biologie de l'évolution, on a un petit peu cette tendance à vouloir tout interpréter sous l'hypothèse sélective ou sous l'hypothèse adaptationniste. Or, ça demande à être testé. Donc cette précaution étant prise, je vous présente le plan de l'exposé. Donc, je vais vous parler beaucoup d'adaptation en fait à partir de maintenant. Donc, dans une première partie, je vais vous parler de sélection naturelle sur les motifs de coloration. Ensuite, je vais vous parler de sélection sexuelle et notamment de cas où on a une opposition des pressions de sélection naturelle et des pressions de sélection sexuelle. Et dans une troisième partie, là c'est un petit 3 qu'il faut lire, je vous parlerai de la coévolution des traits sous l'effet de la sélection. Donc l'idée qu'un trait en fait n'évolue pas seul. Alors, c'est l'exemple hyper classique de la sélection naturelle qui est dans tous les livres que lisent les étudiants sur la sélection naturelle. Donc c'est un exemple que vous connaissez peut-être, c'est l'exemple de la phalène du bouleau qui est un papillon de nuit qui présente donc ses motifs blancs et noirs marbrés et qui typiquement passe une bonne partie de son temps à être posé, aile ouverte, sur des troncs d'arbres. Alors ça a été développé comme un exemple d'adaptation parce que ce qui a été observé, c'est une corrélation. Alors dans cette espèce, on trouve des variations de ces motifs blancs et noirs et on trouve aussi des individus qui sont quasiment entièrement mélaniques. Donc ce qui a été regardé, c'est la fréquence des motifs blancs marbrés et la fréquence des motifs noirs dans différentes régions de l'Angleterre. Et ce qui a été observé, c'est une corrélation entre la fréquence du phénotype noir et les zones dans lesquelles il y avait un développement de l'industrie du charbon. Alors c'est un exemple qui est aussi historique. Donc il y a eu des expériences menées par ce monsieur qui s'appelle Bernard Kettlewell. Donc c'est une photo que je trouvais rigolote, que j'ai trouvée dans ce papier de Jerry Coyne dans Nature. Donc je vous ai mis la référence du papier vraiment fondateur de ces premières expériences en fait là-dessus. Donc il a fait plusieurs choses, hein. Il a fait beaucoup d'expériences. Il y a eu des expériences de prédation en cage avec des mésanges, donc où il a placé des papillons, des phalènes du bouleau avec différentes couleurs, dans différents types d'environnement, et puis regarder le taux de prédation ou le taux de détection par les mésanges. Et puis il a fait aussi des expériences de ce qu'on appelle marquage recapture, capture-recapture. Donc l'idée est très simple, on va dans des populations naturelles, on attrape un maximum de papillons, on les marque par exemple avec un feutre, on les relâche et puis on revient dans la même région géographique quelques semaines après et on regarde quel est le pourcentage d'individus marqués qu'on va réattraper. D'accord ? Et à partir de ça, on peut estimer déjà l'abondance des populations et ensuite le taux de survie relatif des individus noirs et des individus marbrés. Alors, ce qu'ont montré l'ensemble de ces expériences, c'est un rôle important de la prédation sur le taux de survie des papillons portant différents motifs et donc à confirmer l'hypothèse que les motifs mélaniques très noirs pouvaient être avantagés dans des environnements où les troncs des arbres devenaient plus foncés du fait de la pollution due à l'industrie du charbon. D'accord ? Alors, il y a eu d'autres expériences par la suite qui ont essayé de retester toujours cette même hypothèse, et notamment dans des populations où progressivement la coloration noire des troncs était en train de disparaître. Et puis, donc ce qu'ont montré ces différentes... Alors, il y a eu ces expériences de Magirus, et puis il y a eu un article vraiment qui a fait le point de toutes les expériences qui ont pu être montrées. Et ce qui ressort principalement, c'est qu'à l'ère post-industrielle, où il y a un petit peu disparition de cet environnement plus foncé, eh bien, on a une baisse de la probabilité de survie des individus qui sont mélaniques par rapport aux individus marbrés. Donc ça, c'est un exemple hyper classique qui vous montre qu'en fait, ce phénotype qui est visuel, qui est très facile d'accès, même dans les années 50, où on n'a pas forcément accès à la caractérisation des variations génétiques sous-jacentes, permet quand même de commencer à comprendre quels sont les moteurs de l'évolution pour ce type de traits. Donc ici, donc ça aussi, ça fait écho à des choses que Louis a dû vous présenter. C'est un exemple typique de sélection directionnelle où, eh bien, quand on a une disparition de l'environnement noir, eh bien, on a un avantage à des phénotypes moins mélaniques. Et puis, au cours du temps, donc si vous avez donc là à l'ère industrielle et là à l'ère post-industrielle, eh bien, on a une sélection directionnelle qui va favoriser à nouveau le motif marbré. Si on connaît, maintenant on connaît une partie du déterminisme génétique de cette variation, si on imagine que voilà, c'est une variation allélique qui va être responsable de la différence entre les individus qui portent cette couleur noire et les individus qui portent cette couleur marbrée, ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours du temps, on peut avoir une augmentation de la fréquence de l'allèle avantagé, donc par exemple celui-ci à l'ère post-industrielle et celui-ci à l'ère de l'industrie du charbon. Donc ça existe, la sélection directionnelle. Il y a d'autres types de sélections qui vont avoir des conséquences complètement différentes sur la variation au sein des populations. Par exemple, ce qu'on appelle la sélection équilibrante, où on va avoir non pas un allèle qui va arriver en fréquence quasiment 100% dans la population, mais plutôt plusieurs allèles qui vont se maintenir au cours des générations à des fréquences plutôt intermédiaires. D'accord ? Alors, je vais vous parler un petit peu de ça et de quel type de mécanismes peuvent maintenir, en fait, pour des périodes évolutives relativement longues, en tout cas pour un grand nombre de générations, différents variants au sein d'une même population. Alors, il y a un très joli article qui est paru sur ce thème il y a 15 jours, je crois, qui a comparé différentes espèces de lépidoptères. Ici, ce sont des papillons de nuit, dans lesquels on supposait qu'il y avait soit de la sélection directionnelle, soit de la sélection équilibrante. Et donc, ce qu'ils ont comparé, c'est le niveau de variation des motifs au sein des espèces. Donc ici, chaque ligne est une espèce, et ici, ce sont des différents individus d'une même espèce. Donc pour des motifs ici extrêmement colorés et dans des espèces qui présentent des défenses chimiques, on trouve un niveau de variation qui est relativement faible, alors que dans des espèces où on a plutôt un phénotype qui va favoriser le camouflage sur différents substrats, eh bien, on observe un niveau de variation des motifs qui est beaucoup plus important. Alors l'idée, c'est de se dire qu'ici, peut-être qu'on a plutôt une sélection diversifiante et ici une sélection directionnelle. Donc ici, typiquement, je vais vous introduire cette notion d'espèce aposématique parce que je vais en reparler après. Dans les espèces qui présentent des défenses chimiques, par exemple de la toxicité, on observe fréquemment des motifs très colorés, très vifs, avec beaucoup de contraste. Et ça, c'est probablement dû au comportement des prédateurs qui vont apprendre à associer la coloration très vive avec l'expérience désagréable de goûter une proie qui va avoir un goût, par exemple, amer. D'accord ? Et donc, il va y avoir un avantage dans ces populations-là à présenter par exemple, un des phénotypes connus, parce que la plupart des oiseaux auront déjà goûté un individu. Et on a déjà associé le fait qu'être rouge et jaune, par exemple, c'est associé avec un goût désagréable. Donc tout individu qui va être un peu trop différent de ce motif qui est déjà reconnu par la communauté de prédateurs va être contre-sélectionné. Ça veut dire que dans ces espèces dites aposématiques, il y a une sélection qui va, qui va être du type stabilisant, je crois que Louise vous a parlé de ça aussi, qui va favoriser au contraire un niveau de variation des motifs plutôt faible au sein de la population. Donc je vais vous parler un peu précédemment de pourquoi on observe une grande variation plutôt dans les espèces qui ont ce type de motif plus camouflé. Parce que ça, c'est une manip que j'aime beaucoup. Donc c'est une manip qui a été inspirée de la variation chez un autre type de papillon de nuit, c'est Catocala, dans lequel on trouve un phénotype marbré, qui n'est pas très différent du phénotype de notre phalène du bouleau, mais qui est assez variable au sein de l'espèce. Et c'est des manips qui se sont intéressés à l'effet de la prédation sur la variation des motifs dans ce type d'espèce. Donc l'idée, c'est d'utiliser des jets bleus, donc ici c'est qui vont être entraînés à taper du bec sur un écran quand ils voient une proie. Et quand ils détectent correctement une proie, et bien il va y avoir une récompense qui va tomber ici. Donc c'est des animaux qui ont des très bonnes capacités cognitives. Et on va leur présenter en fait des écrans avec des papillons de nuit générés de manière plus ou moins aléatoire sur un fond très marbré comme ça. Donc je ne sais pas si vous les voyez là, ici. Donc l'idée, c'est de leur présenter différents types de ces proies fictives et puis de regarder leur capacité à détecter ces proies. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans une première série de manips. Donc c'est un papier de Bond et Camille qui est sorti dans le journal Nature en 1998. Et donc ils ont testé, par exemple, il y avait trois types de motifs camouflés. Donc par exemple sur une série comme ça de trois différents qui étaient présentés dans un ordre aléatoire sur l'écran. Et ce qu'ils ont regardé, c'est au cours du temps, quelle était la capacité de l'oiseau à repérer chacune des trois types de papillons de nuit. Donc c'est ce qu'il y a là, moth 1, 2, 3. Et alors ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez typique, c'est qu'on voit des fluctuations comme ça au cours du temps. Et ça s'explique par la manière dont les oiseaux, mais aussi nous, humain, on va avoir de chercher quelque chose sur un fond comme ça marbré, c'est qu'on va essayer de repérer quelque chose qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un motif qu'on a déjà identifié va être plus facile à réidentifier une deuxième fois. D'accord ? Et donc ça va créer ces fluctuations, parce qu'en fait un motif qui va être plus rarement présenté à l'oiseau, il va le connaître moins bien et il va avoir plus de mal à le détecter. Donc ça crée un truc assez classique aussi pour les biologistes d'évolution, c'est l'avantage du rare. C'est-à-dire que le motif, il n'est pas forcément, dans ces trois motifs, il n'y en a pas forcément un qui est plus camouflé que l'autre, encore qu'on va voir après. Mais ce qui va vraiment déterminer la capacité de l'oiseau à détecter le motif, ça va être à quel point il l'a déjà rencontré avant. D'accord ? Donc plus le motif va être rare, plus il va y avoir de chances que l'oiseau ne le connaisse pas et ait plus de mal à le détecter. D'accord ? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de ces taux de détection, ils ont simulé des populations avec un taux de survie qui dépend de la capacité des oiseaux à les détecter. D'accord ? Et donc quand ils ont fait ça, ils ont une population de papillons de nuit simulée avec la fréquence ici au cours du temps des différents motifs. Donc on retrouve ces fluctuations qui sont la conséquence directe du taux de survie qui varie au cours du temps. Et puis ce qu'on voit, c'est que donc on a quand même un des phénotypes qui est en nombre, c'est pas des fréquences en fait, c'est des nombres d'individus dans la population, qui augmente quand même en fréquence. Donc on a une sorte de sélection directionnelle probablement sur la proie la plus cryptique, la mieux camouflée on va dire. Et puis on a des fluctuations, mais quand même un maintien des autres motifs au cours du temps, d'accord ? Et probablement dû à l'avantage du rare. Donc ça, c'est un mécanisme qui va dépendre de l'abondance relative des différents motifs dans une population, qui va jouer sur leur maintien au cours du temps. Alors évidemment, dans cette histoire, ce qui va être très important, c'est le fond sur lequel ces individus vont se trouver. Donc ils ont refait ce type de manip, soit avec un fond avec quelque chose de disjoint, un truc très foncé, un truc très clair, et puis les mêmes nuances de noir et gris, mais plutôt granuleux. Et pareil, ils ont simulé l'évolution d'une population de papillons en permettant des variations presque par mutation de leur motif. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils peuvent nous montrer ce que ça va donner, à quoi va ressembler la variation dans la population. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler un morpho-espace. En fait, c'est un espace qui va juste décrire la variation possible des motifs dans la population. Plus deux individus vont être proches, plus ils se ressemblent. Et plus ils sont éloignés, au contraire, moins ils se ressemblent. Donc ça se voit bien parce qu'ils ont ici montré les différents types d'individus générés dans leur simulation. Quand on a un fond disjoint, ce qu'on voit, c'est que notre population, après un certain nombre de générations d'évolution, la variation, elle va être répartie avec des noirs et des plus blancs, mais aussi pas mal, donc avec deux groupes plutôt bien séparés. Alors que quand on compare avec les simulations faites sur un fond granuleux, on va avoir une variation beaucoup plus continue entre les individus foncés et les individus clairs, et on aura beaucoup moins ce côté disjoint où on a un groupe de très clairs et un groupe de très foncés. Donc là, je suis quand même en train de vous introduire aussi qu'il va y avoir une combinaison de différentes forces sélectives. Il y a le fond sur lequel évoluent ces papillons, et puis la fréquence ou l'abondance relative des différents types de motifs. Et donc là, on est dans un cas où on peut avoir une sélection diversifiante. Elle peut même être disruptive. Là, si on a par exemple deux types de fonds possibles, soit des traits foncés, soit des traits blancs, dans ce cas-là, si on a en pointillé la population ancestrale, on va avoir plutôt une évolution qui va favoriser une population avec pas mal d'individus très noirs, pas mal d'individus très clairs et peu d'individus avec un phénotype intermédiaire. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs sélectifs qui vont jouer sur l'évolution de ces motifs camouflés et qui va expliquer le niveau de variation qu'on va observer au sein d'une même espèce. Donc ça, c'était pour ma première partie, pour vous expliquer en général les grands types de sélection naturelle que l'on peut observer sur les motifs de coloration des papillons. Donc je vais passer à la deuxième partie où on va aborder la question de la sélection sexuelle et on va notamment s'intéresser à des cas où on peut avoir une opposition entre la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Et je vais aborder cette question en vous présentant un cas assez impressionnant de dimorphisme sexuel. Donc ici, on est dans la même, au sein de la même espèce. On est sur une espèce qui s'appelle Ornithoptera priamus. Et vous avez un mâle avec une coloration bleue et noire, par exemple, que personnellement je trouve assez joli. Et puis vous avez une femelle qui a un motif de couleur très différent, une taille aussi différente. Donc la question qui se pose, c'est qu'ici on a une évolution des motifs qui semble être très différente chez les mâles et chez les femelles. Et donc on peut se poser la question de quelle est la force évolutive qui est responsable de ce dimorphisme et dans quelle mesure la sélection naturelle et ou sexuelle peut jouer sur l'évolution de ce dimorphisme. D'accord ? Alors, chez les papillons, vous avez sans doute peut-être observé ça, en tout cas pour des papillons de jour, quand vous vous promenez dans des prairies, par exemple au printemps ou en été. On voit souvent des papillons qui se volent autour, qui se chassent au court. Donc, c'est un peu ce qui est représenté par ce dessin. Donc, on peut tester, par exemple, avec des mâles et des femelles qu'on va mettre en cage. Donc, on va prendre des femelles vierges et on va prendre des mâles, différents types de mâles, par exemple, avec différents phénotypes. Et puis, on peut regarder, au bout d'un certain temps, quels sont les accouplements réalisés. Et donc, on peut présenter, par exemple, des mâles avec différents niveaux de coloration. Et puis, on peut tester dans quelle mesure, par exemple, il y a les mâles avec une coloration, un contraste plus fort ou un plus fort niveau de réflectance dans l'UV, par exemple. Quel est leur succès reproducteur? Alors, je vais faire un petit aparté, parce que je n'ai pas prévu de diapositive là-dessus, mais je pense que c'est important. Donc, globalement, la façon dont on définit qu'est-ce qui est un mâle et qu'est-ce qui est une femelle dans une espèce, c'est généralement en fonction de l'investissement dans les descendants. D'accord ? Donc typiquement, les femelles en général font des plus gros gamètes que les mâles. D'accord ? Donc l'investissement en termes métaboliques, par exemple, dans la production de gamètes, est plus fort chez les femelles que chez les mâles. Et donc ça veut dire que les femelles, quand elles vont produire un gamète avec, par exemple, un mâle qui va avoir de mauvaises qualités génétiques, ben, elles vont avoir un coût plus fort. D'accord ? Alors que les mâles qui font des petits gamètes, ben, en fait, même s'ils se reproduisent de temps en temps avec une femelle qui va avoir des gènes qui vont conférer à leurs descendants peut-être une moins bonne survie, par exemple, bah, ça va avoir un coût moins fort parce qu'ils peuvent produire plus de types de gamètes. D'accord ? Et ça, ça a une conséquence importante sur l'évolution de ce qu'on appelle la préférence sexuelle. C'est-à-dire que généralement, on suppose qu'il y a une plus forte sélection sur les préférences chez les femelles par rapport aux mâles. Donc ce qu'on va tester en premier lieu, ça va être plutôt la préférence des femelles que la préférence des mâles. D'accord ? C'est juste pour vous expliquer pourquoi on va principalement s'intéresser à la préférence des femelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'espèces dans lesquelles il y a aussi du choix par les mâles. Hein ? D'accord ? Donc, s'il y a de la préférence chez les femelles, et si par exemple les femelles préfèrent les mâles plus colorés, plus verts, et bien donc chez les mâles, si on part d'une population ancestrale où on a un phénotype plus, par exemple, marron, ben si les femelles ont tendance à préférer les mâles plus colorés, ben, ça veut dire que les mâles les plus colorés vont se reproduire, vont avoir un meilleur succès reproducteur, vont transmettre à leurs descendants le caractère brillant, vert, et donc progressivement, cette sélection sexuelle va favoriser l'évolution du phénotype des mâles vers une coloration, par exemple, plus vert brillante. D'accord ? Alors que chez les femelles, s'il n'y a pas ce type de préférence chez les mâles, eh ben, il n'y aura pas particulièrement de sélection sur leur phénotype des ailes par ce biais-là. Et peut-être qu'il y aura très peu d'évolution de leur phénotype au cours du temps, notamment si, par ailleurs, leur motif de coloration peut être sous sélection, par exemple, vis-à-vis des prédateurs. D'accord ? Donc, le fait qu'on puisse avoir des préférences des femelles pour certaines colorations, bah ça peut générer, c'est une première hypothèse qui peut générer de ce qu'on va appeler du dimorphisme sexuel au sein d'une espèce, c'est-à-dire le fait que les mâles et les femelles ne se ressemblent pas. Une hypothèse alternative, c'est de se dire qu'en fait, les mâles et les femelles n'ont pas tout à fait les mêmes modes de vie. Typiquement, chez les papillons, les femelles, en fait, elles vont s'accoupler un nombre assez limité de fois, parce qu'une fois qu'elles se sont accouplées, elles vont stocker un spermatophore et elles vont pouvoir utiliser les spermatozoïdes des mâles avec lesquels elles se sont accouplées pendant un temps assez long au cours de leur vie. Et donc, elles vont passer une bonne partie de leur vie adulte à pondre, à chercher des plantes pour pondre leurs œufs, etc. Ce qui va être différent du comportement des mâles qui vont se reproduire plusieurs fois et qui donc vont avoir tendance à passer plus de temps à chercher des femelles, à parcourir peut-être de plus longues distances, etc. Donc on peut imaginer qu'en fait les pressions de sélection qui vont agir sur l'évolution des motifs chez les mâles et chez les femelles peuvent être différentes. Donc là c'est ce que je vais représenter par ce schéma-là. Peut-être que chez les mâles, la sélection naturelle va favoriser une évolution des motifs par exemple dans cette direction-là, vers le plus bleu, et puis que chez les femelles, eh bien, la sélection va favoriser une évolution dans une autre direction de l'espace des phénotypes possibles. D'accord ? Donc c'est deux hypothèses alternatives qui peuvent expliquer l'évolution du dimorphisme sexuel, donc cette différence entre mâles et femelles. Alors, il y a une étude qui a essayé de tester exactement ça, dans quelle mesure le dimorphisme sexuel est plutôt dû à une sélection naturelle qui serait différente entre les mâles et les femelles, et dans quelle mesure ça serait dû plutôt à une évolution divergente des phénotypes des mâles sous l'effet de la pression de sélection exercée par la préférence des femelles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié les motifs de coloration dorsaux et ventraux chez 369 espèces de papillons européens. Donc ici, vous avez de nouveau les relations d'apparentement entre tous les papillons, les espèces de papillons qu'ils ont étudiées. Ici, vous avez les phénotypes des femelles et ici, les phénotypes des mâles. Donc, ce qu'ils ont regardé, en fait, c'est la proportion de pixels de différentes valeurs. C'est ce que représentent ces graphiques ici. Sur les photos des ailes des femelles et des ailes des mâles. Donc, par exemple, ici, dans ce groupe d'espèces, on voit que les mâles ont plus de bleu sur leurs ailes que les femelles, par exemple. Donc, quand ils ont utilisé donc, à la fois l'information de l'apparentement entre les différentes espèces et de la variation des motifs entre espèces pour essayer de reconstituer les états ancestraux, quels étaient les motifs aux différents, ce qu'on va appeler les nœuds, donc au moment où on a eu la divergence entre différentes espèces ou différents groupes d'espèces. Et ensuite, à partir de ça, on peut calculer les taux d'évolution du phénotype à partir de l'état ancestral chez les mâles et chez les femelles. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est assez joli. Donc ici, on a le niveau de dichromatisme, donc de le niveau de dimorphisme sexuel en fait entre les mâles et les femelles au sein de chacune des espèces. Et vous avez ici un ratio qui vous donne en fait la contribution de l'évolution du phénotype des mâles ramené au taux d'évolution chez les femelles. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est supérieur à 1. Ça veut dire qu'en gros, plus on a quelque chose des espèces qui sont dimorphiques, plus c'est dû à une divergence du phénotype des mâles, principalement du phénotype des mâles. Et pas tellement du phénotype des femelles. Donc on est plutôt dans l'hypothèse sélection sexuelle, dans l'hypothèse que je vous ai présentée à droite tout à l'heure, où il y a une évolution moins rapide du phénotype des femelles que des mâles, et plutôt une divergence des phénotypes des mâles, et donc probablement sous l'effet de la sélection sexuelle. D'accord ? Alors ça, c'est une étude qui a montré ça donc, chez des papillons européens. Il y a d'autres cas intéressants de dimorphisme, notamment celui-ci, donc chez des papillons du genre Papilio, donc ici c'est Papilio même nom. Alors c'est intéressant parce que donc voilà, là on a le papillon mâle, d'accord, et là on a des différents motifs qu'on peut trouver chez des femelles de cette même espèce, et donc dans différentes régions, en fait, les femelles vont avoir des motifs relativement différents, avec même parfois certaines femelles qui ont ici des queues sur leur aile postérieure, alors que d'autres n'ont pas, des couleurs rouges, jaunes, vraiment beaucoup de variations chez les femelles. Donc on peut s'intéresser à... Donc là, je vous montre chez une espèce, d'accord, qui s'appelle Papilio, même nom, que vous retrouvez ici, dans l'arbre, même nom ici, d'accord. Et puis, ce qu'a regardé cet auteur, donc c'est un collègue indien, ce qu'il a regardé, parce que c'est des papillons qu'on trouve beaucoup dans les régions d'Asie et d'Afrique, mais voilà. Donc, ce qu'il a regardé, c'est... donc, il a regardé ici Papilio, même nom. Donc, vous avez ici des petites pastilles bleues et vertes. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a du dimorphisme sexuel très marqué. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a très peu de dimorphisme sexuel. D'accord ? Donc, ce qu'il a regardé, c'est... comment se répartissent les cas où il y a un dimorphisme sexuel très fort et les cas où il y a peu ou pas de dimorphisme dans les différentes espèces. Et ça permet de reconstituer combien de fois cette histoire de dimorphisme sexuel a évolué de manière plus ou moins indépendante. Donc ce que vous voyez, c'est que ça est apparu probablement plusieurs fois au sein de la diversification de ce genre de papillon. D'accord ? Alors, on peut se poser la question de quel est le moteur de la sélection, est-ce qu'il y a un avantage pour sélectif associé à certains motifs arborés par les femelles? Alors, chez les papillons, en fait, il n'y a pas de défense chimique, mais par contre, ils vivent souvent dans des régions dans lesquelles il y a d'autres papillons qui, eux, présentent des défenses chimiques. Notamment, alors ici, c'est Papilio polites. Il vit par exemple, donc ce qu'on va appeler, il vit en sympatrie, c'est un terme que j'ai tendance à utiliser, donc je vais le définir. Donc vivre en sympatrie, ça veut dire deux espèces qui partagent la même région, d'accord ? Donc ce Papilio polites, il va vivre dans les mêmes régions ou dans les mêmes localités que ces Pacliopta aristolochiae, qui sont des papillonidés aussi, qui vont se nourrir de plantes qu'on appelle les aristoloches. Et ça, à partir de ces plantes, ils vont séquestrer des composés toxiques. Et donc, ils vont présenter des défenses chimiques. Donc là, on est typiquement dans le cas dont je vous parlais au tout début, où on a une coloration rouge et noir assez contrastée qui est associée à cette toxicité. Et probablement que les prédateurs sont capables, petit à petit, d'associer cette coloration noire et rouge avec la toxicité. Ce qui fait que nos femelles de l'espèce Papiliopolites, qui ne présentent pas du tout de défense chimique, les variations phénotypiques qui vont leur conférer une plus grande ressemblance avec cette autre espèce qui, elle, a des défenses chimiques, vont être avantagées. D'accord ? Donc là, on peut faire l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une sélection positive qui favorise l'évolution phénotypique des femelles dans cette espèce non toxique quand ce phénotype ressemble aux motifs arborés par les espèces toxiques présentes localement. Donc il y a des gens qui ont essayé de tester cette hypothèse. Alors ils ont travaillé avec des faux papillons, hein, vous voyez, ils impriment les ailes avec le motif. On a un corps qui est fait, alors, selon les études, parfois en cirque, parfois en pâte à modeler. On peut placer ça, les accrocher dans des arbres, au sein d'ailleurs des localités dans lesquelles on trouve naturellement ces papillons, d'accord ? Puis on peut revenir quelques jours après et puis regarder si on a des marques d'attaque sur le corps, le faux corps de ces papillons. Et ça permet d'estimer en fait le taux de prédation associé aux différents motifs. Et donc là, ce qu'ils ont montré, c'est que le motif mimétique était en effet moins attaqué. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une sélection naturelle qui favorise l'évolution de ce motif chez les femelles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mimétisme batésien. Alors ça s'appelle batésien parce que ça a été pour la première fois décrit par Henry Bates. Et donc c'est cette idée d'avantage sélectif pour des motifs ressemblant à des espèces toxiques et abondantes localement, même dans des espèces qui n'ont pas de défense chimique. Donc vous avez un certain nombre de cas très bien décrits. Il y a ce cas du monarque, papillon orange que vous connaissez peut-être, qui fait ses grandes migrations du Canada vers le Mexique, qui est aussi un papillon qui a des couleurs très vives et qui a des défenses chimiques. Puis il y a un certain nombre d'individus, d'espèces différentes, qui lui ressemblent étrangement. Donc c'est ce qu'on va appeler ici un cas de convergence évolutive. Alors Louis, il vous a parlé de ça sur la tolérance au lactose, mais c'est exactement le même cas. Ça veut dire qu'on va avoir une évolution du même type de motif, mais indépendant dans différentes espèces. D'accord ? Parce que la sélection favorise le même type de motif. Alors on s'est intéressé avec une de mes étudiantes qui est présente dans la salle d'ailleurs à ces cas de convergence des motifs de coloration, notamment chez les femelles, chez les papillonidés. Donc les papillos dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un petit sous-groupe qui appartient à cette grande famille des papillonidés. L'avantage des papillonidés, c'est qu'on a des collègues de Montpellier qui avaient vraiment très très bien, très très précisément caractérisé les relations d'apparentement entre les différentes espèces. Et ça, c'est crucial pour ensuite comprendre l'évolution des traits. Si on ne connaît pas les relations d'apparentement entre espèces, on ne peut absolument pas tester dans quelle mesure c'est de la convergence ou dans quelle mesure deux espèces présentent le même motif parce qu'elles sont très fortement apparentées. D'accord ? Donc ça, c'était le socle de notre étude. Ça a été publié en 2021, cette phylogénie des papillonidés. Alors, ce qu'elle a fait, Agathe, l'étudiante qui travaille dans mon équipe, c'est qu'elle a pris des photos d'un très grand nombre d'espèces qui étaient présentes dans cette phylogénie, quasiment la totalité, en utilisant les collections du Muséum d'Histoire Naturelle ici à Paris. Et ce qu'elle a mis au point, c'est un algorithme basé sur des réseaux de neurones. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas important. Mais en gros, ce que fait cet algorithme, c'est qu'il va essayer de quantifier à quel point les différents motifs se ressemblent. D'accord ? Donc, à partir des photos, ce qu'elle a fait, Agathe, c'est qu'elle a produit des modifications de ces images de base. Donc, par exemple, à partir de ce papillon bleu, elle a découpé, elle a fait des rotations, etc. Et puis ce qu'elle disait au réseau de neurones qu'elle était en train d'entraîner, c'est que ces différentes versions de la photo appartiennent bien à la même photo. D'accord ? Elle fait ça sur plein de photos différentes. Et petit à petit, en fait, le réseau de neurones apprend à à reconnaître différentes, enfin, à associer, on va dire, différentes parties du motif de coloration comme quelque chose qui distingue cette photo de cette photo. D'accord ? Et donc, à partir de ça, on peut construire, comme je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, un morpho-espace, donc c'est-à-dire un espace où on va avoir un ensemble de coordonnées qui va décrire la variation à ces différents endroits des photos. D'accord ? Donc là, on met par exemple sur deux axes, mais on peut avoir plus d'axes pour décrire la variation des motifs. Et en gros, de la même manière que j'expliquais tout à l'heure, deux individus qui vont être proches dans cet espace, ça veut dire qu'ils vont être proches, leur phénotype, leur motif de coloration va être proche. Et donc, on peut ensuite faire des mesures de distance entre individus ou entre motifs au sein de cet espace morphologique. Donc ensuite, on peut calculer la distance entre les motifs, d'accord, à quel point ils se ressemblent, à quel point ils ne se ressemblent pas, et on peut comparer cette distance à la distance phylogénétique, c'est-à-dire à quel point les espèces sont apparentées ou non, un ancêtre commun récent ou au contraire très ancien, d'accord. Et ça, c'est exactement ce qui nous permet de tester la convergence évolutive. Est-ce que ces motifs, par exemple, je prends deux motifs très proches ici, ils se ressemblent parce qu'en fait, ça correspond à deux espèces qui sont proches d'un point de vue génétique, ou est-ce que c'est pour une autre raison? Donc vous avez ici, donc on retrouve ici les relations d'apparentement entre les différentes espèces. Et ici, quand il y a un trait vert qui est tiré, c'est que Agathe, elle a détecté ici qu'il y avait probablement une convergence des motifs entre espèces. Et voyez, avec des distances phylogénétiques très longues. Donc ça, c'est pour les mâles. Donc vous avez un certain nombre d'événements de convergence. Et puis pour les femelles, il y a beaucoup, beaucoup plus d'événements de convergence détectés chez les femelles que chez les mâles. Et notamment quand on se place en sympatrie, c'est-à-dire des événements de convergence qui ont lieu entre espèces qui vivent dans les mêmes régions. Et que c'est probablement le fait qu'elles vivent ensemble qui favorise l'évolution de ce qu'on appelle le mimétisme, d'accord, c'est-à-dire l'évolution d'une ressemblance, notamment dans les espèces non défendues chimiquement, dans lesquelles il va y avoir un avantage à la ressemblance des motifs vis-à-vis des espèces défendues. D'accord. Mais ça peut se faire que s'ils vivent dans les mêmes environnements, d'accord, et qu'ils sont chassés par les mêmes prédateurs. Donc Agathe, elle avait travaillé là-dessus, notamment sur la face dorsale des ailes. Alors, ce qui se passe chez beaucoup de papillons, c'est un truc assez étonnant, c'est qu'on les regarde sur la face dorsale, puis hop, on les retourne. Puis là, on se rend compte que la face ventrale n'est pas forcément pareille. Donc là, c'est un premier exemple de ça, mais vous en connaissez peut-être aussi, vous. Alors, un truc auquel s'est intéressée Agathe particulièrement, c'est le fait que parfois, quand on regarde, nous, avec nos yeux d'humain, bon, là, on les retourne, bon, ok, il y a des petites variations, hein, c'est pas tout à fait pareil, il y a un petit peu de rouge ici, mais bon, c'est pas non plus hyper flagrant. Alors ça, ça c'est ce qu'on voit avec notre œil d'humain. Donc ici, vous avez en fait la sensibilité de nos cellules photoréceptrices en tant qu'humain. Donc on a trois types de photorécepteurs, et en gros, ça nous permet de percevoir les variations de spectre de la lumière reflétée entre 400 et 700 nanomètres. Donc c'est ce qu'on va voir, nous, en tant qu'humains. Mais en fait, une aile de papillon, elle peut refléter des longueurs d'onde plus petites, par exemple entre 300 et 400 nanomètres. Et quand il va y avoir des reflets dans cette longueur d'onde-là, nous, en tant qu'humains, on ne va pas le percevoir. D'accord ? Par contre, il y a un certain nombre de papillons, et notamment, par exemple ici, cette espèce de Graphium sarpedon, où là, il y a un nombre absolument incroyable, une diversité incroyable de types de cellules photoréceptrices qui vont couvrir une grande gamme de longueurs d'onde reflétées, et notamment dans la gamme 300-400. D'accord ? Alors ça, c'est une première chose, ça c'est la différence entre notre système visuel et le système visuel des papillons. Mais alors, quand on éclaire la face ventrale de ce même papillon avec une lumière UV, alors là, la photo, c'est un peu des fausses couleurs, mais c'est pour vous montrer, en fait, plus c'est jaune, plus il y a une réflectance UV qui est forte. Donc ici, en fait, ça veut dire que des individus, et notamment des papillons, qui ont ce système visuel-là, eh ben, en fait, ils vont trouver qu'il y a un très très fort contraste ici sur la face ventrale de ce graphium. D'accord ? Et notamment, là où nous, on voyait assez peu de différence entre face dorsale et face ventrale, ici, des animaux qui sont capables de percevoir la réflectance dans l'UV, ils vont trouver que la face ventrale, elle est beaucoup plus contrastée que la face dorsale. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, nous. Et donc, on s'est intéressé avec Agac spécifiquement à l'évolution de cette réflectance dans l'UV. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à ça, c'est notamment le cas de cette espèce qui s'appelle Iphiclides podalirius, enfin ce couple d'espèces du genre Iphiclides. Donc ici vous avez cette carte, elle est issue d'une étude faite par des collègues catalans. Parce qu'effectivement, en fait, on a une zone de contact entre une première espèce ici en marron qui s'appelle Iphiclides podalirius et une autre espèce qui s'appelle Iphiclides festameli. Donc c'est un cas en fait où on a deux aires de répartition que j'ai représentées ici par ces cercles et puis une zone de contact ici que j'ai représentée en vert. Donc ici, on a une zone de sympatrie, c'est-à-dire où les individus ils vont potentiellement se croiser, partager les mêmes prédateurs, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde en lumière UV les mâles de Iphiclides podalirius, ils vont refléter un petit peu dans l'UV. Et par contre, les mâles de Iphiclides festameli, ils vont refléter énormément dans l'UV. Donc, ils vont être beaucoup plus contrastés que les podalirius dans la gamme UV. Et nous, ce qu'on s'est dit, l'hypothèse sur laquelle on a travaillé, c'est qu'il y avait peut-être aussi un effet de la sélection sexuelle sur ça. C'est-à-dire que si les femelles peuvent rencontrer des mâles de leur propre espèce et des mâles de l'autre espèce. Bon, il y a un gros coût pour elles à se reproduire, par exemple pour une podalirius avec un mâle festameli, parce que leurs descendants vont probablement être soit non viables, soit stériles. D'accord ? Donc ça génère probablement une sélection qui favorise une préférence chez les femelles podalirius pour les mâles de leur propre espèce. D'accord ? Donc elles vont préférer peut-être des motifs peu contrastés, alors que les femelles festameli vont avoir tendance à préférer des mâles plutôt très contrastés, notamment dans la gamme de l'UV. Donc ça, c'est ce qui a motivé Agathe et moi à continuer sur cette question. Donc en fait, on a repris nos papillonidés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné des espèces proches qui vivent en sympatrie. Alors, quand je dis en sympatrie, ce qu'on a fait, c'est que ici vous avez une échelle de vert. En fait, plus le vert est foncé, plus en fait les deux espèces, elles ont une grande partie de leur aire de distribution qui est commune, d'accord ? Et plus c'est clair, plus ça veut dire que bon, il y a une partie de leur aire de distribution qui est commune, mais qui est relativement petite. Et ce qu'on a testé, c'est à quel point le fait qu'elles partagent un même environnement favorise l'évolution divergente de leurs motifs de coloration dans la gamme de l'UV. Donc voilà, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des photos des différentes espèces, des mâles et des femelles en lumière visible et UV. Et puis ce qu'elle a trouvé, c'est qu'on a effectivement une divergence des motifs dans la gamme de l'UV très forte chez les mâles sur la face ventrale, et ce principalement au sein d'espèces vivant dans les mêmes régions géographiques, au sein d'espèces vivant en sympatrie. D'accord ? Donc ça, c'est compatible avec l'hypothèse que, alors là, vous avez la photo de ces Iphiclides podalirius et festameli dont je vous parlais tout à l'heure. Donc où on a ce cas de zone de contact. Où c'est compatible avec cette histoire de sélection sexuelle par les femelles qui favoriserait en fait une divergence des motifs de coloration dans la gamme de l'UV. Alors, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que quand on vit en sympatrie, on partage aussi les mêmes prédateurs. Et donc, les mêmes prédateurs qui vont pouvoir s'attaquer indifféremment à cette espèce-là. Les prédateurs n'ont pas la connaissance de l'identité de l'espèce. Eux, ils vont se baser sur l'aspect visuel de leur proie. Alors, je mentionne une étude qu'on avait menée avec un de mes collègues qui s'appelle Vincent Debat qui a été menée par une de nos étudiantes en thèse qui s'appelait Ariane Chautard. Et elle, ce qu'elle avait testé, c'est le comportement des prédateurs vis-à-vis de ce motif de coloration de Diphyclides podalerius. Alors, le comportement typique, c'est ça, c'est qu'il y a des attaques et que les attaques, elles ont lieu, je ne sais pas si on voit très bien, mais elles ont lieu préférentiellement sur la région, voilà, c'est en ralenti, dans cette partie-là des ailes, c'est-à-dire sur les queues et dans la région ici très colorée. Ça veut dire que l'évolution des motifs est aussi importante, probablement, parce qu'elle a tendance à diriger les attaques vers des parties des ailes et des parties du corps du papillon qui sont non vitales. C'est-à-dire qu'un papillon à qui il manque des queues, comme ça, ou des morceaux d'ailes, ben on peut en trouver plein dans la nature. En fait, ils sont toujours capables de survivre et de se reproduire et de survivre pendant un temps assez long. Et donc, l'évolution du motif, elle est aussi conditionnée par le comportement des prédateurs. Donc, la raison pour laquelle je vous ai parlé de cette manie, c'est pour vous montrer que oui, il y a de la sélection sexuelle par les femelles qui peut favoriser de la divergence, de l'évolution divergente des motifs dans des espèces différentes, et notamment en contexte de sympatrie, mais qu'en sympatrie, il y a aussi un partage d'un certain nombre de caractéristiques communes, soit d'ordre biotique, par exemple des prédateurs communs, ou abiotiques, par exemple il va y avoir des mêmes conditions de température ou de taux d'humidité, et que ça va avoir plutôt tendance à favoriser la convergence des motifs entre espèces. D'accord ? Et donc, fréquemment, ce qu'on peut observer, c'est une opposition entre les pressions de sélection qui vont être exercées par la sélection naturelle, ici par exemple les prédateurs, dans l'exemple que je vous donne, et par les femelles respectivement. D'accord ? Et donc on peut avoir une combinaison de ces pressions de sélection qui vont générer une évolution relativement complexe des motifs de coloration chez les papillons, mais c'est le cas sur pas mal de traits en fait. Là, je vous l'illustre par ces exemples visuels, mais c'est quelque chose qui est très général sur l'évolution des espèces en général. Voilà, donc je vais passer à ma dernière partie, qui va porter sur la coévolution des traits sous l'effet de la sélection. Parce que là, je me suis concentrée vraiment sur l'évolution des motifs de coloration. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette dernière partie, c'est que l'évolution des motifs, elle n'est pas forcément indépendante de l'évolution d'autres traits, et notamment dans la première partie de ce que je vais vous présenter, l'évolution du comportement. Donc, je vais revenir à mes espèces de papillons préférés, du moins préférés pour le moment, qui sont les papillons du genre Morpho. Donc ici, encore une fois, vous avez un arbre qui vous représente les relations d'apparentement entre les différentes espèces. Donc ici, vous avez le nom d'espèces différentes du genre Morpho. Ici, vous avez un exemple des motifs de coloration dorsaux arborés par les mâles. Donc c'est des papillons qu'on trouve dans la région d'Amérique centrale et Amérique du Sud, qui vivent dans des forêts tropicales. Forêts dans lesquelles on va typiquement trouver des arbres très très hauts. Et une des caractéristiques des papillons du genre Morpho, c'est que on va avoir un certain nombre d'espèces qui vont avoir ce comportement de voler très haut dans la canopée, et un certain nombre d'espèces qu'on va observer principalement plutôt dans le sous-bois. D'accord ? Et ils sont structurés phylogénétiquement, c'est-à-dire que les papillons de sous-bois sont plus proches phylogénétiquement entre eux que les papillons de canopée, enfin, qu'ils ne le sont des papillons de canopée. Alors je vais vous montrer un exemple de comportement de ces morphos de canopée. Alors non, il faut que je déclenche là. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc il vole haut. Hein. Et puis, il a des phases de vol plané relativement longues. Là, on va le voir. Donc un battement d'ailes, ensuite un grand moment où il plane. Là, on est ralenti 30%, hein, pour vous voyez mieux. Voilà. Donc ça, c'est Morpho Sissi, c'est une espèce qu'on qualifie de morpho de canopée. Voilà, vous pourrez regarder ça des heures, mais... et puis, je vais vous montrer le comportement d'un morpho qu'on trouve plutôt dans le sous-bois, qui s'appelle Morpho Menelaus. Donc déjà, vous pouvez tout de suite voir qu'il vole beaucoup plus bas. Et puis, qu'il est un petit peu plus énervé. La fréquence de battement des ailes, elle est... beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de phases de vol plané. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a cherché à mesurer. Donc ça, c'était le travail d'un étudiant en thèse qui s'appelait Camille Leroy, que j'ai fait aussi en collaboration avec mon collègue Vincent Debat, qui est assis là-bas. Là-bas. Et donc, ce qu'il a fait, Camille, c'est mesurer justement la durée de ces phases planées chez des papillons de sous-bois et chez des espèces de canopées, dans la nature et puis en conditions de cage. Alors, je vous invite à regarder plutôt le gris clair, c'est-à-dire ce qu'ils font dans la nature, parce qu'en cage, ben, c'est un peu petit, donc ils peuvent moins planer et ils peuvent voler moins haut. Donc, si on regarde plutôt les données dans la nature, ce qu'on voit, c'est que les papillons de canopée, en général, ils ont des phases de vol planées beaucoup plus longues que les papillons de sous-bois. Ça, c'est ce que je vous ai montré aussi à travers le film. Il y a une exception notable, c'est ce Morphorhéténor, qui est un papillon de canopée dans le sens où il vole très haut. Par contre, c'est un papillon qui est quand même très énervé. Donc, il y a une fréquence de battement très rapide et des phases de vol plané beaucoup plus réduites, quasiment plus réduites que d'autres papillons du sous-bois. D'accord ? Alors ça nous amène à nous questionner sur cette idée de coévolution entre la coloration et puis le comportement de vol battu rapide ou vol plané plus lent. Alors, ce que vous avez peut-être vu dans le film précédent, mais que je voudrais vous montrer plus précisément, alors ici vous l'avez ralenti, ce qui est important de noter sur ces papillons, notamment de sous-bois, c'est que quand ils volent, on a une alternance de flash bleu et de disparition. Vous les voyez ? Ok ? Ça vous convainc, j'espère ? Ça, c'est... Alors ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde la face dorsale et la face ventrale, on a quelque chose d'extrêmement différent. La face dorsale, elle est bleue, elle est iridescente, c'est-à-dire que iridescente, ça veut dire que là, je vous montre une photo qui a été prise à un angle donné. Si je penche un peu mon papillon, la coloration, elle va changer un peu. Il va passer du bleu au violet, un peu vert. Ce n'est pas du tout le cas de la face ventrale. La face ventrale, elle est marron, on retrouve ses ocelles. Elle n'est pas du tout iridescente, très peu brillante. D'accord ? Et donc, ce contraste extrêmement fort entre ces deux ces colorations, encore une fois, ventrale et dorsale, associé avec ce vol battu très rapide, ça crée en fait cette alternance de flash bleu et de disparition. D'accord ? Donc c'est la combinaison du type de motif dorsaux et ventraux et du comportement de vol qui crée cette impression-là. Et alors, je peux vous dire, et mes collègues qui ont déjà chassé le morpho peuvent en témoigner, ça rend les morphos extrêmement difficiles à attraper. Parce qu'en fait, alors en plus, quand on les effraie, ils commencent à avoir un vol extrêmement erratique. Et donc, on a une difficulté à les localiser, à les détecter. Et ça rend vraiment la tâche du chasseur de papillons difficile et probablement aussi la tâche du prédateur, par exemple oiseau, relativement difficile. Donc, dans une étude faite par des collègues, et notamment dirigée par Marianne Elias, qui est aussi dans la salle, il y a du beau monde aujourd'hui, ils ont testé l'hypothèse que quand un oiseau va essayer d'attraper une proie et qu'il va rater, ça va être une expérience douloureuse pour lui, et que petit à petit, il va peut-être arrêter de se concentrer sur des proies qu'il n'arrive jamais à attraper. D'accord ? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait une expérience. Donc là, c'est une vidéo que j'ai récupérée dans le matériel supplémentaire de leur papier. Donc ils ont pris des mésanges qu'ils ont mis dans une petite boîte comme ça. Ici, il y avait une proie. Donc ici, c'était un papillon aussi. Alors, ce n'était pas un morpho, c'est un papillon d'une autre espèce qui s'appelle Adelpha. D'ailleurs, je crois que c'était des papillons imprimés, mais c'était des motifs qui ressemblaient à Adelpha. Et en fait, à chaque fois que la mésange essaye d'attaquer ici le papillon, il y avait un expérimentateur, qui était en l'occurrence une expérimentatrice, qui était Erika Paez, qui tirait en fait sur le papillon. D'accord ? Ce qui fait que la mésange, elle ne pouvait jamais l'attraper. D'accord ? Et elle faisait ça donc, pour ce motif blanc et orange. Et puis il y avait d'autres proies qui, là, ne s'enfuyaient pas, en fait, à laquelle la mésange avait accès. D'accord ? Alors, elle répète cette expérience assez cruelle, on va dire, hein, plusieurs fois, donc jusqu'à 75 fois, en fait, ça, plusieurs fois. Et puis, ce qu'on peut regarder, c'est Ben alors, pour regarder que ce graphique-là, d'abord, dans un premier temps, c'est à quel point ben, la mésange va essayer d'attaquer la proie, d'accord ? Et donc là, c'est donné en taux de survie, c'est inversé, c'est le taux de survie de la proie, c'est-à-dire à quel point la proie ne va pas être attaquée. Et vous voyez qu'au cours des différents essais, eh ben, y a une probabilité de plus en plus forte que la mésange n'attaque plus la proie, d'accord ? Donc, ce qu'elle a fait, Erika Paez, c'est qu'elle a comparé donc, ce traitement que je vous ai montré, où elle tirait sur le papillon au cours d'expérience, avec une expérience sur les mêmes motifs, où là, l'expérience désagréable, c'était qu'elle mettait ici une amande enrichie en quinine. Donc, il y a un goût vraiment très amer. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait un effet assez désagréable pour l'oiseau. Donc de la même manière, en fait, les mésanges, elles apprenaient à associer la coloration avec l'expérience de ce goût désagréable, mais elles continuaient quand même à tenter de temps en temps. Donc en fait, on a une augmentation de la probabilité de ne pas être attaqué chez les proies, mais bon, il y a toujours dans à peu près 30% des cas, même au bout de 75 essais, où elles continuent à essayer. D'accord ? Alors ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est le cas typique de mimétisme qu'on apprend, hein, l'association défense chimique et coloration vive. Mais dans le cas où la proie réussit à s'échapper, eh ben, on a un apprentissage de la même manière qui va probablement conférer un avantage très fort aux individus qui réussissent à s'échapper et aux motifs contrastés qui, quelque part, jouent un rôle de signal de cette capacité à s'échapper. D'accord ? Et donc cette manip qui est absolument super, elle a été montrée donc sur ce type de motif. Elle n'a pas été faite chez les morphéons, mais on pense qu'il peut y avoir ce même type de phénomène qui agit sur l'évolution de nos phénotypes bleus iridescents chez les morphos. Alors, pour ajouter un petit truc intéressant à cette histoire, donc chez les morphos, on a plusieurs espèces proches. Donc là, je vous ai montré l'exemple de trois espèces proches qui vivent en Saint-Patrick, donc c'est-à-dire qui vivent ensemble au sein du bassin amazonien. Donc c'est trois espèces différentes. À chaque fois, je vous ai mis une photo de chacune de ces trois espèces. Donc c'est ici, vous avez Deidamia, Achilles et Lénore. À chaque fois, Deidamia, Achilles et Lénore. Et alors, de manière intéressante, ce qu'on voit, c'est que en Guyane, par exemple, dans chacune de ces trois espèces, on a une bande bleue qui est relativement fine, avec beaucoup de noir. Au Pérou, par exemple, on a une bande bleue beaucoup plus large. Et puis en Bolivie, le bleu, il va presque toucher le corps. Là. On a presque plus de noir au niveau du corps. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ben, cette variation, elle est parallèle dans les trois espèces. Alors que c'est trois espèces qui, a priori, ne se croisent pas entre elles. D'accord ? Donc ça suggère que peut-être il y a des facteurs de sélection communs qui pourraient favoriser une évolution convergence de ces motifs. Alors pour essayer de quantifier à quel point cette impression qu'on peut avoir sur cette carte, sur trois exemples, était vraie, on a été dans la collection de morphos du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors je crois qu'il y a à peu près 7000 spécimens différents de morphos dans les collections du muséum, donc c'est un truc absolument incroyable, et qui nous permet d'avoir accès à des spécimens qui viennent de l'ensemble de l'aire de distribution des morphos, d'accord ? Donc plein de localités en Amazonie, en Amérique centrale, dans la forêt atlantique du Brésil, etc. Donc on a pris des photos de plein de spécimens, donc je crois qu'il y avait à peu près plus de 700 photos donc de spécimens de ces trois espèces, répartis dans différentes localités d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et puis, on a de nouveau cherché à quantifier les variations de motifs, et notamment la largeur de cette bande bleue. Donc, à partir de ces photos, donc, je vous passe assez vite, mais l'idée, en fait, c'est de séparer les pixels noirs des bleus des blancs, donc d'avoir une aile un peu modélisée comme ça. Et ensuite, on peut aligner les différentes ailes entre elles, les ailes des différents individus, de manière à pouvoir comparer point par point, est-ce que dans cette région de l'aile, cet individu est noir, bleu ou blanc. Et ça nous a permis de tester à quel point, quand les individus sont dans la même localité, est-ce qu'ils se ressemblent plus que des individus des mêmes espèces, mais pris dans d'autres localités. Et ce qu'on a documenté donc, dans cette étude, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un signal assez fort de convergence locale, c'est-à-dire que les individus, quelles que soient leurs espèces, ils se ressemblent plus quand ils vivent dans les mêmes environnements que quand ils viennent de localités différentes. Donc là, voilà, je vous remets vraiment les relations d'apparentement. Donc à chaque fois, ça c'est une espèce, ça c'est une espèce, et ça c'est une autre espèce. Et puis les variations parallèles des motifs dans différentes régions d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est pour vous illustrer le fait que la sélection naturelle par les prédateurs, elle favorise peut-être probablement chez ces papillons qui vivent dans le sous-bois à la fois une coloration bleu iridescente et une coloration peut-être plus marron, justement peu brillante sur la face ventrale, mais probablement qu'elle favorise aussi ce comportement de vol erratique, cette fréquence de battement importante qu'on n'observe pas dans les espèces qui ne sont pas bleues, qui ne sont pas bleu iridescentes. Et puis, le fait que les prédateurs apprennent à associer cette coloration iridescente avec cette capacité d'échappement, bah, ça peut favoriser aussi la convergence des motifs entre espèces qui vivent dans les mêmes environnements. D'accord ? Donc c'est cette combinaison de traits qui va être favorisée par les prédateurs. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, il y a un certain nombre de papillons qui vont, et notamment de femelles papillons, qui vont choisir leur partenaire pour se reproduire sur la base du motif de coloration. Alors le truc, c'est que comme chez les Iphiclides, il va y avoir probablement ce qu'on va appeler des erreurs quoi, d'individus d'espèces différentes qui vont avoir des comportements soit de compétition entre mâles. Alors on a l'image des papillons très pacifiques, mais en fait il y a pas mal de territorialité chez les papillons, et notamment chez les morphos, où les mâles vont chasser les autres mâles qui rentrent sur leur territoire. Et puis des comportements des mâles de parade, de séduction des femelles. Alors le fait que la question qu'on s'est posée donc, dans la thèse de Camille, c'est à quel point la ressemblance entre individus peut amener à ces comportements soit de parade, soit de compétition entre mâles, entre espèces. Donc Camille, il a travaillé proche d'une ville qui s'appelle Tarapoto au Pérou, dans la région amazonienne du Pérou. Donc on le voit en action, donc c'est possible d'attraper des morphos quand on est bien motivé. Il a travaillé avec des leurres. Donc l'idée, c'est de prendre des ailes de papillons morphos, puis de les coller sur un petit dispositif qui est vendu chez Truffaut là, pour décorer les jardins, où en général il y a des papillons très kitsch qui sont mis là. Nous, on a mis des vraies ailes de morphos dessus. Ça marche avec un petit moteur solaire, puis ça permet de faire bouger un peu le papillon. Et on a planté ces petits dispositifs au bord d'une rivière, ça s'appelle le Rio Chilcayo, ici, donc une rivière du Pérou. Dans cette rivière, vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui volent, et notamment des papillons, et notamment des mâles, des morphos mâles, qui ont son comportement de patrouille, où ils circulent le long des rivières, probablement à la recherche de femelles, mais aussi éventuellement dans un comportement de défense de leur territoire. Ah oui, alors les ailes, elles étaient rincées avec un solvant qui s'appelle l'hexane. C'était pour enlever toute trace d'odeur, parce que vous savez que chez les papillons, il y a beaucoup de phéromones qui sont relâchés. Donc nous, ce qu'on voulait tester, c'est l'effet visuel. Donc on a enlevé toute interférence potentielle avec des composés odorants. Donc voilà, donc là on est sur le bord de la rivière, vous avez le petit dispositif ici, et puis on avait un truc très high-tech, donc 4 bâtons en plastique de même hauteur qu'on disposait autour de notre dispositif. Et ça, c'était pour définir un cube qu'on va appeler la zone d'interaction. Et ce qu'on va regarder, c'est dans quelle mesure les papillons sauvages qui se baladent le long de la rivière ici vont rentrer ou non dans ce cube d'interaction. Ce que vous voyez peut-être pas très bien, c'est qu'il y avait des caméras pour filmer ça, ici et là, elles sont bien camouflées. Et donc, si on se place d'un autre point de vue, donc là, on a toujours le même dispositif, mais on voit ici la rivière le long de laquelle les morphos vont se promener. Et ce qu'on va chercher à quantifier, c'est voilà. Donc ici, vous avez un morpho qui se balade, et là, il n'est pas trop intéressé par notre leurre. Il continue son chemin comme si de rien n'était. Donc là, on va dire que c'est un passage. Il est juste passé. D'accord. Après, il y avait d'autres individus qui semblaient être un peu intéressés. Donc, ils déviaient leur trajectoire, ils venaient un peu voir, mais ils ne rentraient pas dans notre cube d'interaction. Donc ça, on appelait ça une approche. Et puis, la troisième chose, c'était des papillons vraiment intéressés et qui rentraient dans notre cube et puis qui venaient tourner autour de notre leurre. D'accord ? Et ça, on qualifiait ça d'interaction. Donc, Camille, il est resté à peu près 4 mois au bord de la rivière à faire ça. Il faut de la patience. C'est des données voilà, qui requièrent beaucoup de patience, mais qui sont vraiment super intéressantes, je trouve. Et alors Camille, il est patient, mais il est aussi assez fort. Donc à partir des données issues des caméras 1 et 2, ce qu'on peut faire, c'est reconstituer la trajectoire en 3D de ce qu'on va appeler notre visiteur, donc ça c'est notre papillon sauvage vivant, autour de notre modèle, notre faux papillon ici en rouge. D'accord ? Qui bouge quand même un peu, hein, parce qu'il y a ce système. Et puis, il peut ressortir des paramètres de vol, par exemple ici, la vitesse de vol du papillon autour du leurre. D'accord ? Donc, typiquement, le design expérimental, c'est ça. Et donc, ce qu'on a mis comme aile de papillon ici sur notre petit dispositif de chez Truffaut, là, c'était des motifs qui sont portés par des mâles et des femelles de ces deux espèces, donc Morpho Elenor et Morpho Aquiles, d'accord. Les motifs qu'on trouve au Pérou, donc les motifs qu'on va appeler locaux, d'accord, que vont potentiellement connaître les mâles péruviens qui se baladent le long de cette rivière, d'accord. Et puis on a aussi mis des leurres qui venaient de Guyane. Donc ça, c'est des motifs en fait que probablement ce Morpho péruvien n'a jamais vu de sa vie, d'accord. Donc on peut comparer quel va être le comportement vis-à-vis de motifs qu'il connaît déjà. Par rapport à des motifs qu'il n'a jamais vus en fait. Parce qu'ils volent pas mal, mais ils ne font pas Pérou-Guyane dans leur vie. Hein. D'accord. Et donc on est dans un cas, je vous ai remis le petit schéma là, de Saint-Patrick, parce qu'on est quand même dans une zone où, naturellement, ces deux espèces, elles coexistent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les interactions avec leurs mâles? Donc ici, vous avez quand le mâle... péruvien de la rivière se balade, à quel point il vient s'intéresser, il vient rentrer dans notre cube, et bien il vient à peu près autant que ce soit un con spécifique ou un mâle de l'autre espèce. Il vient même de temps en temps voir, un peu moins souvent, mais le mâle guyanais, quoi. Par contre, chez Morpho Aquiles, ils viennent autant s'intéresser au mâle de leur espèce que de l'espèce Elenor. Par contre, ils s'intéressent beaucoup, beaucoup moins aux morphes exotiques. Donc ça, ce que ça montre, c'est qu'il y a de fortes interactions mâle-mâle, à la fois au sein des espèces et entre espèces. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met ici un leurre femelle? Les mâles Elenor, visiblement, ils ne sont pas très discriminants. Hein, ils viennent voir, tant que c'est des femelles, ils viennent. Dans 40% des cas, ils viennent interagir avec des femelles, qu'elles soient de leur espèce ou qu'elles soient d'une espèce différente. Les mâles Aquiles, ils ont l'air un petit peu plus discriminants. Hein, ils vont quand même préférentiellement interagir avec des femelles de leur espèce et pas des femelles de l'espèce différente. Mais globalement, ils viennent quand même aussi s'intéresser et interagir avec des femelles de l'autre espèce. Donc en fait, ce que montrent ces manips, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des interférences reproductives entre espèces. D'accord ? Il y a des interactions hétérospécifiques. Et ça, c'est probablement favorisé. Dans notre manip, hein, je rappelle, ce qu'on a testé, c'est l'effet du motif, l'effet donc, visuel uniquement. Donc, le fait qu'il y ait une convergence des motifs au sein de ces espèces qui vivent en Saint-Patrie, ça augmente peut-être, ça contribue probablement à augmenter l'interférence reproductive entre espèces. Et ça, ça peut générer une sélection sur d'autres types de traits. Alors, un trait qu'on a regardé dans le cadre de la thèse de Camille, c'est à quelle heure volent nos papillons. Donc, vous avez toujours les deux mêmes espèces, là, Morpho Elenor et Morpho Aquiles. Alors, ce qu'il a fait, Camille, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure dans les expériences de Kettlewell, c'est du capture, marquage, il relâche son papillon, et puis, voilà, toutes les semaines, il faisait une grosse série de recaptures, d'accord ? Et il regardait, parmi les individus recapturés, combien étaient marqués. Et quelle était leur espèce, quels étaient leurs sexes, etc. Donc, dans la rivière, on capture quasiment que des mâles, parce que les mâles, ils ont ce comportement de patrouille que les femelles n'ont pas. Les femelles, elles sont beaucoup plus dans le sous-bois, près de leurs plantes hôtes, etc. Donc il y avait une grande majorité de mâles. Et de manière intéressante, il y avait une fréquence beaucoup plus forte de capture des mâles Morpho Elenor vers 11h du matin, et une capture beaucoup plus forte des mâles Aquiles vers 12h30. D'accord ? Donc ça veut dire que le temps d'activité, l'horaire d'activité des individus de ces deux espèces est différent. Donc ils vivent en sympatrie, okay, ils partagent la même, ils se baladent dans la même rivière, mais ils se baladent dans la même rivière pas à la même heure. Ce qui fait que ça, en fait, ça a tendance à diminuer en fait le taux de rencontre entre les individus de cette espèce-là et les individus de cette espèce-là, d'accord. Donc, une des hypothèses, c'est que l'interférence reproductive peut être aussi quelque chose qui va exercer une pression de sélection sur d'autres traits du type quel est l'horaire de vol ou l'horaire de patrouille de nos mâles, d'accord. Alors, un autre trait qu'on a commencé à regarder, alors c'est des résultats hyper frais, parce que ça date de mercredi. Donc ça, c'est le travail de thèse de Joséphine Le Damoisel, qui se cache là-bas. Et donc, elle, ce qu'elle a regardé, c'est les profils chimiques des mâles morpho-Lénor et morpho-Aquilès. Donc là, ce que vous voyez, pareil, ce qu'on fait, c'est que... Enfin, ce qu'a fait Joséphine, c'est qu'elle a découpé les pièces génitales de mâles sauvages, d'accord ? Elle les a plongées dans un solvant, et ensuite, ce qui permet en fait de dissoudre leur composé odorant. Et ces petits échantillons de solvant dans lesquels on trempait les pièces génitales des mâles Elénor et Aquilès, on peut les passer dans une machine qui fait ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. Retenez pas ça, c'est pas forcément important. Mais c'est une technique qui permet de différencier les différentes molécules qu'on peut avoir dans un mélange de solvant. Et les différents types de molécules, elles sont repérées par leur temps de rétention. Donc, suivant leur masse, suivant leur charge, elles vont être retenues plus ou moins longtemps dans la machine. Et donc, on va avoir des pics qui vont correspondre à différentes molécules qui ont une masse et une charge différentes. Et là, ce qu'on a superposé, c'est les pics observé pour morpho-Aquilès et les pics pour morpho-Elénor. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a des pics orange et des pics roses. Les pics orange, c'est des molécules qu'on ne trouve que chez les mâles Aquilès, et les pics roses, c'est des molécules qu'on ne trouve que chez les mâles Elénor. Donc là, on est au tout début de l'étude, on ne sait pas dans quelle mesure ces pics sont des phéromones, dans quelle mesure elles sont réellement perçues par les papillons, hein. On est au tout début de la partie communication chimique de cette étude. Mais ce que ça suggère, c'est que il y aurait des profils odorants différents chez ces deux espèces qui vivent en sympatrie. Et donc ça, c'est pour vous compléter le schéma, c'est que la convergence des motifs, elle peut augmenter les interférences reproductives entre espèces, ce que je vous ai montré avec nos petits papillons solaires. Et ces interférences reproductives, elles peuvent éventuellement générer une pression de sélection qui va favoriser la divergence d'autres traits. Par exemple, les heures de vol ou les composés phéromonaux. Donc ça, c'est pour vous illustrer ce que je vous ai expliqué en partie 2, qu'il peut y avoir de la sélection sexuelle et de la sélection naturelle qui jouent sur l'évolution des traits, qui peuvent avoir des effets plus ou moins opposés, et que l'évolution des traits eux-mêmes va changer le régime de sélection et peut éventuellement, favoriser l'évolution d'autres types de traits. D'accord ? Et que donc, quand on s'intéresse à l'évolution d'un trait, en fait, souvent, il ne faut pas oublier que ce trait, il n'évolue pas indépendamment des autres. D'accord ? Toutes les mutations, elles arrivent au hasard et elles peuvent toucher différents traits en même temps, pas en même temps, etc. D'accord ? Donc, un trait n'évolue pas seul. En gros, c'est ça qu'il faut retenir de cette dernière partie. Voilà, donc je fais juste une conclusion rapide pour vous rappeler de quoi on a parlé aujourd'hui. C'est un peu le message à rapporter chez vous. Donc dans la partie 1, j'ai essayé de vous parler des régimes de sélection directionnelle, mais la phalène du bouleau, vous connaissiez probablement déjà cet exemple, mais d'essayer de vous montrer des régimes de sélection qui peuvent favoriser la diversité des motifs au sein des espèces, donc notamment cet avantage du rare que je vous ai montré sur les motifs camouflés. Ensuite, on a parlé d'opposition entre sélection naturelle et sexuelle, qu'il peut y avoir des régimes de sélection qui peuvent être différents entre sexes, alors parce qu'il y a de la sélection sexuelle, mais aussi parce que la sélection naturelle, elle peut être différente entre les sexes parce qu'ils n'évoluent pas tout à fait dans le même environnement, l'évolution d'un phénotype, en fait, elle résulte de pressions de sélection multiples. Et puis dans la troisième partie, j'ai essayé de vous convaincre que les traits n'évoluent pas seuls et qu'il y a souvent une coévolution des traits sous l'effet de la sélection. Donc avec ça, normalement j'ai une voilà. Donc je voulais vous remercier pour votre attention. Je voulais remercier Louise pour l'invitation, parce que c'était un plaisir de parler d'évolution avec vous aujourd'hui. J'en profite pour remercier le Collège de France qui a accueilli mon équipe il n'y a pas longtemps. Et puis, je veux surtout remercier l'ensemble de mon équipe et de mes collaborateurs, parce que la recherche, c'est toujours un travail d'équipe. On ne fait rien tout seul, donc je ne serais rien sans eux et je ne vous parlerai de rien s'ils n'étaient pas là aujourd'hui. Voilà, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.